Je vais maintenant demander à Philippe Goudard de me rejoindre. On a souhaité inclure dans cette conférence des temps qu'on avait nommés capsules au départ, puis qu'on a remplacés sur le programme par un petit télescope. Parce que capsule, ça ne voulait peut-être pas dire grand-chose. L'idée, c'était d'avoir un temps privilégié pour proposer un point de vue, un regard singulier, qui n'appelle pas forcément de débat tout de suite, mais c'est pareil, on aura le temps après. Et en lisant les textes qu'avait écrit Philippe quand il était administrateur de la SACD, qui s'appelait « Être auteur de cirque » en 2052, j'avais envie de lui proposer un petit exercice de prospective qui va être même augmenté dans le sens où on ne va pas parler que de futur, mais c'était un peu sur cette base-là qu'on était parti. Donc on va avoir maintenant un point de vue, un regard singulier, en espérant que le Wi-Fi marche.
Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir. Vous êtes là dans cette salle, je crois, depuis quelques heures, à entendre des prises de parole. Donc je vais essayer de ne pas vous endormir. Bonjour, je remercie beaucoup Circus Next de m'avoir invité. Alors attendez, ça marche. Oui, merci à Circus Next de m'avoir convié pour votre rencontre Think Circus. Je remercie évidemment Cécile Prévost et Agathe Dumont. Et ma présentation aujourd'hui, donc, ça va, ça marche ? Qu'est-ce qui ne marche pas ? Si, c'est bon. Est titré donc « Être auteur de cirque en 2052 », c'est le titre d'un texte que j'ai écrit quand j'étais alors dans mon troisième mandat à SACD en 2013. SACD qui soutient, j'espère, toujours Circus Next grâce à l'action culturelle et au financement issu de la copie privée. Alors ce texte initialement était prévu pour notre blog. En fait, je me suis amusé à l'écrire. Il y a eu 6 épisodes qui sont parus entre le 26 septembre 2013 et fin novembre 2013. C'est un texte donc d'anticipation. Alors, rien à voir avec, évidemment, toutes les discussions extrêmement étayées et savantes que nous venons d'entendre. On peut le retrouver... Je peux pas vous le montrer parce que je ne suis pas connecté. Donc, on n'est qu'en 2017, hein, pas en 2052. Donc, les connexions Internet sont difficiles. Et je vais vous présenter deux moments dans les temps, j'espère, 20-25 minutes, c'est ça, voilà. D'abord, évoquer mon parcours et en quoi il est peut-être en lien avec ces thématiques de la prospective, de l'anticipation. Peut-être aussi, je vous écoutais, de la notion d'une réémergence permanente. Hein, parce que moi, j'ai émergé au cirque en 1974 et puis j'émerge encore autant que possible d'une réinsertion permanente. À partir d'une aventure qui était au départ libertaire, esthétique, artistique et politique, avec une formation très rapide. À l'époque, chez Grus, c'était 6 mois de formation et on débutait au trapèze, parce que les patrons avaient besoin de trapézistes, hein, moi je voulais être clown. Et puis ensuite, on se forme sur le tas, autour du monde et devant le public, à l'occasion de quelques milliers de représentations. Avec Marie-Paul B, on a créé une quarantaine de spectacles de cirque contemporain entre 1974 et 2016. Et puis donc, dans un deuxième temps, je vais vous faire une lecture, une sorte de lecture théâtrale, d'une interview que j'ai rêvée avec une jeune artiste de cirque, une femme, qui vivrait en 2052. Alors, dans un premier temps, ma méthodologie, puisqu'on en a parlé tout à l'heure. Alors, ma méthodologie, elle est depuis le début la même, c'est pratiquer. Donc à gauche, c'est la photo de la dernière création, clownerie, hashtag 2 de janvier 2017, avec mon complice Didier Schex, jeune clown comme moi. Et puis de l'autre côté, c'est un solo théâtral, donc deux micro-productions, deux œuvres de production créées et produites dans le circuit court. Et celle qui est déjà créée depuis 2 ans a à peu près 80 représentations à son actif. Mais la deuxième parle aussi de la médecine, qui sont les deux polarités de ma recherche. Voilà pour la méthodologie. Donc là, j'ai listé comme je pensais qu'il y aurait un public majoritairement anglophone, j'ai fait une diapo en anglais, ça fait chic. Et donc, plusieurs points de repère. Donc, 74 anticipé en se disant que le cirque sera certainement le théâtre populaire et le plus créatif de demain. On était quelques-uns à ne pas s'être trompés. En même temps, des recherches en neurophysiologie du mouvement à l'INSERM de Nancy, appliquées au cirque, la création d'artistes associés pour la recherche et l'innovation au cirque, des recherches dramaturgiques, des recherches scénographiques, la création et la direction du département médical du Centre national des arts du cirque, avec cette idée de qu'allons-nous devenir après notre carrière. À ce sujet, j'ai entendu vos résultats intéressants, français ou européens. Je vous livre une petite anecdote. Comme vous ne l'ignorez pas, en novembre 2015, à la faveur des Jeux Olympiques, secteur porteur, une loi a été votée en France, vous l'avez entendu, sur le statut social et sanitaire des athlètes de haut niveau. Donc j'ai écrit aux députés pour leur dire, tant qu'à faire, mettez-y les artistes de cirque. Bon, j'ai pas eu de réponse. Et puis j'ai obtenu un rendez-vous à la Direction générale de la Santé au ministère en août dernier, où j'ai redit les mêmes choses que nous disons, j'ai donné les mêmes statistiques qui débutent avec celles de Jean-Michel Guy en 92, avec nos travaux à la faculté de médecine sur la pathologie et la prévention des artistes de cirque, et on me dit, les artistes de cirque, combien ça pèse? Alors je dis, on ne sait pas trop, parce qu'on ne connaît pas bien les chiffres du nombre d'artistes de cirque, du nombre d'artistes français en France, à l'étranger. Alors dans ce cas-là, allez donc voir le ministère de la Culture, allez donc voir le ministère de Jeunesse et Sport, et puis expliquez-leur tout ça et revenez nous voir. Donc je ne l'ai pas fait, puisqu'on l'a fait plusieurs fois. Donc, comme je vois que l'Europe, la Fédération européenne se préoccupe de tout ça, bon courage, on a commencé en 1979, et en 2016, on en est toujours au même point. Donc, création de cirques d'art et d'essai aussi en 90, des explorations sur les sons du cirque aussi, qu'on traite en direct dans les années 90. Ce n'est pas nous qui l'avons inventé, inspiré par John Cage, évidemment. Le cirque nu, alors j'ai eu l'honneur d'être le premier administrateur cirque à la SACD. Le cirque rentre dans cette grande société d'auteurs. Et puis, en même temps, je fais donc un doctorat en médecine, un doctorat en art du spectacle sur l'esthétique du risque au cirque. Et puis deux études en 2002-2003 qui rejoignent un peu les travaux que vous avez présentés tout à l'heure sur justement l'insertion professionnelle, le devenir des professionnels ou ce qu'on en savait à l'époque. Et puis j'ai la chance de pouvoir créer un programme de recherche en cirque dans une université française à Montpellier, le programme Cirque, Histoire, Imaginaire, Pratique. Il y a bien pratique dedans. De créer la semaine de cirque où nos collègues chercheurs et chercheuses, avec notamment pour notre amie hongroise, une semaine en 2014 consacrée aux femmes de cirque. Donc, questions du genre sont des questions qui nous sont intéressées déjà à cette époque-là. Et puis, maintenant, j'ai la chance de diriger des doctorats au Brésil, en Colombie, en Allemagne. Francisca Trapp a bien voulu m'inviter à l'accompagner en Chine. Et évidemment, c'est important que la recherche doctorale soit faite pour les artistes de cirque et par des artistes de cirque, puisque trois d'entre eux, chiliens et deux brésiliens, sont des artistes de cirque. Charlène Drey aussi, qui travaille sur les relations entre l'intelligence artificielle et le dressage du cheval. Voilà, et puis le programme Processus Cirque aussi, qui, en tout cas quand il est né à la SACD, faisait se rencontrer des auteurs de cirque et des scientifiques. Bon, ça a duré 2 ans. Maintenant, la partie scientifique, je crois, n'a pas été poursuivie avec toutes ces questions en arrière-plan sur le statut social, le devenir des artistes. Pourquoi tout ça? Parce que sans doute je suis un hyperactif, mais aussi pour casser les codes, pour me situer aussi comme un fabricant de spectacles réflexif sur son art, et puis donc avec le souhait de se demander par jeu, comme ça, ce que pouvait être le devenir du cirque. Donc, être auteur de cirque en 2052, c'est bien un texte d'anticipation. Ça a été au départ un exercice intellectuel ludique. C'est-à-dire, pourquoi 2052? Parce que c'est 100 ans après ma naissance. Alors, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'une jeune femme pourrait vivre à ce moment-là? Elle serait ma petite fille, elle serait née en 2026, elle s'appellerait Agathe. Alors, Agathe, je ne rêvais pas à toi à ce moment-là, mais tout simplement parce que c'était le prénom que j'aurais donné à à ma troisième fille, si j'en avais eu trois. Mais j'ai eu un fils qui s'appelle Arthur. Et puis, pourquoi s'appelle-t-elle Frammerie ? Parce qu'elle s'appelle Agathe Frammerie. Eh bien, parce que Frammerie, ça a été le premier des auteurs, Société des auteurs, naissance en 1770, premier décret en 1791 après la Révolution sur la propriété intellectuelle. Et Frammerie, c'est le premier qui a été récolté, percevoir les droits d'auteur en se promenant en calèche en France. Alors, elle s'appelle Agathe Frammerie. Elle est née en 2026 et j'ai choisi la modalité de l'interview dont je vais vous donner ici, où je dialogue avec celle qui pourrait être donc ma petite fille et qui porte elle aussi un regard sur ce que nous vivons aujourd'hui et sur ce que nous vivons depuis les années 70. Alors, je vous donne un extrait sous forme de lecture. Alors, ce texte d'une vingtaine de pages, je ne peux pas vous en faire la démonstration ici, mais est accessible en ligne sur mon site. Je vous présente Agathe Frammerie. Alors, quand je dirai moi, c'est moi, l'intervieweur. Quand je dirai Agathe, c'est Agathe qui parle. Être auteur de cirque en 2052. Alors, Agathe Frammerie est née en 2026. Elle est auteure, artiste et entrepreneuse de cirque. Elle a suivi une formation au sein d'Erasmus Mundus Performing Arts, le réseau international des formations supérieures professionnelles aux arts performatifs en acrobatie au sol et aérienne, à l'école de Kiev, en comédie musicale à Londres, en bioengineering et écotechnologie multimédia et éthique des arts à Santa Clara et Singapour, un beau parcours, et en musique du monde à Dakar. Alors Agathe diffuse aujourd'hui ses œuvres dans le monde entier via le World Web and Live Art Network, donc elle est membre du conseil de décision. Elle a choisi Art Europol comme hôte de 1791, sa micro-société de production. Auteur, productrice, interprète, sociétaire de la SACD à 26 ans, en même temps que spécialiste après un doctorat en art performatif de l'histoire classique et contemporaine du cirque, elle vient de recevoir pour Nano Jump sa dernière réalisation qui mêle biotechnologie des télécommunications et acrobatie, le prestigieux prix des auteurs unis. Alors, vous voyez que c'est quelqu'un de bien, hein, Agathe Frammerie. Alors moi, dans Nano Jump, vous développez une composition où l'acrobatie sur champ magnétique et le robot jonglage ont une place importante et où la performance et la présence corporelle voisinent avec l'interactivité, la transmission à distance et les effets spéciaux les plus étonnants. Mais où est la source de ces idées ? Agathe. Le cirque est intimement lié à la technologie, ce qui est normal puisqu'on y joue avec les lois de la physique, comme la musique joue avec les sons et l'image de la lumière. Le cirque, lui, travaille avec la balistique. Les mouvements et les agrès y tiennent donc un rôle capital, tout comme les déplacements. C'est la raison pour laquelle la logistique et la technologie y occupent une grande place. Et ça ne date pas d'hier. J'ai été frappé par le fait qu'à la fin du XXe et au début du XXIe siècle, les créateurs continuaient à créer pour le cirque et à l'exploiter avec des matériaux et des méthodes héritées du XIXe siècle. On se limitait à l'utilisation de la machinerie théâtrale, ou à des projections d'images et captations de sons particulières, mais dans un environnement scénique inchangé, et sans que les matériaux ou les modalités de création, et surtout d'exploitation des spectacles et des performances, elles-mêmes changent. Pendant un temps, à l'époque de mes grands-parents, c'est-à-dire moi, la vision de l'art se réduisait trop souvent à celle de l'administration de l'art. Pourtant, dès le début du XXe, de grands centres de recherche, comme le Massachusetts Institute of Technology, le MIT, avait avec succès montré le chemin en lançant des concours ouverts aux artistes pour les marier, en quelque sorte, avec des ingénieurs. C'est l'armée qui finançait les programmes de recherche. Et ça a permis à Nancy Berson, par exemple, alors artist in residence at MIT, ses travaux sur la photo numérique ou encore l'émergence des sciences cognitives. Rien que cela. Alors moi, mais quelles sont les applications concrètes de ces concepts, Agathe ? Concrètement, à l'acier ou au carbone des agrès classiques se sont progressivement substitués les champs magnétiques, comme avec le trampoline à tube de flux supraconducteur et les cordes et haubans magnétiques. Ça a bien sûr transformé l'écriture corporelle et permis d'innover avec des figures acrobatiques ultra lentes ou les impulsions translation latérales, impossibles jusque-là. Les grandes composantes de l'acrobatie, appui, propulsion et suspension, se sont bien accommodées de ces innovations. La robotique aussi a été source de création pour le jonglage et la nouvelle magie. Les projecteurs holographiques ont rendu inutiles les moniteurs et autres écrans. Et bien sûr, le passage de l'image virtuelle du 2D au 3D et la téléportation 3D issue des nanotechnologies, les créations et l'imaginaire des auteurs se sont appuyés sur toutes ces possibilités, la diffusion sonore et la transmission d'énergie et de quantité d'informations sans fil, les LED, les dérivés des planctons électroluminescents, les agrès magnétiques antigravitaires, les corps suspendus ou appuyés au faisceau laser invisible. Ces nouveaux matériaux ont permis de tendre des filins avec des résistances énormes, supprimant les gréements d'agrès classiques, comme les fils des funambules d'une longueur extrême, facilitant les installations et développant la créativité. Les nouvelles fibres et les matières en spray dermique ont transformé l'approche du costume, du maquillage. Et il y aura encore d'autres évolutions. Alors ça, c'était des origines au supraconducteur. Donc encore quelques extraits des autres chapitres. Les temps changent, l'heure des grandes mutations. Moi. Mais au-delà de ces avancées technologiques, l'art du cirque lui-même a-t-il évolué, Agathe? Oui et non. Ce qui est génial, c'est que malgré les évolutions techniques, le cœur de l'art acrobatique ou du jonglage ou du clown reste toujours aussi complexe. Cela demande autant de maîtrise de travailler en suspension sur un champ magnétique que sur un trapèze ou une corde lisse d'antan. Mais c'est l'espace dans lequel la performance peut se déployer qui s'est élargi. Depuis un siècle, de nouveaux moyens, donc depuis un siècle, c'est maintenant, quoi. De nouveaux moyens techniques ont permis d'élargir considérablement l'accès au public, autant qu'ils ont bouleversé les habitudes de production. Et les créateurs y ont gagné un grand intérêt. Bien sûr, comme le cinéma a dématérialisé la performance au début du XXe siècle, permettant une exploitation planétaire des œuvres, le web a augmenté la diffusion et la créativité, mais matériellement aussi. La photocopie tridimensionnelle a permis de limiter les transports de matériel, coûteux en énergie, en personnel, en stockage, tout comme le transport des données biologiques. Enfin, je parle de celles qui ne sont pas illicites, bien sûr, hein, de données moléculaires et atomiques. Aujourd'hui, les modèles en nanotubes de carbone, hérités des toutes premières recherches sur les structures hyperlégères du XXe siècle, se téléchargent et se copient sur place après transfert électronique et reconstitution moléculaire. Même si vous prenez l'idée de faire du cirque à l'ancienne sous chapiteau, vous n'avez qu'à vous transporter sur place pendant que vos données sont transmises ou en emportant les fichiers sources dans votre trousse de toilette et le matériel sera développé sur place. Il y a 100 ans, il fallait un convoi de dizaines de camions ou l'envoi de conteneurs par bateau ou avion et des semaines de voyage. Artiste de cirque au quotidien. Moi, à quoi vous consacrez-vous actuellement, Agathe? Cette semaine, je participe depuis mon studio à deux shows en direct avec le Japon et l'Afrique du Sud. Puis j'ai une interview après une diffusion par téléphone sur un réseau turc d'un extrait d'un de mes tout premiers spectacles, Close-up, une variation sur un des spectacles de mon grand-père d'ailleurs. Oui, parce qu'en Turquie, il y a eu un développement de spectacle où on va dans la rue et puis on écoute, on paye un sou et puis on écoute le spectacle par téléphone. C'était il y a une dizaine d'années. Ensuite, je m'occupe du transport numérique et du suivi des copies carbone des agrès de NanoJump, ma dernière pièce, à Quito, en Équateur, pour Quetal, le festival panaméricain du cirque d'innovation. Depuis plusieurs mois, j'enseigne aussi, en présentiel, à l'École supérieure des hautes études en cirque, dans la classe de Paris, et en vidéo masterclass avec Kiev et Perth, en Australie. Et j'écris mon prochain spectacle, en même temps que je prépare une série de représentations à la Tohu de Montréal, une vieille salle du siècle dernier, mais qui garde un charme formidable. Moi, vos œuvres sont aussi sophistiquées technologiquement que corporellement. Quand est-ce que vous vous entraînez? Chaque jour. Au cirque, on dit répéter. On n'a pas encore inventé de machine à répéter à votre place. Qui ne répète pas, qui ne répète plus, ne peut plus se prétendre être artiste de cirque. La répétition est un moment de paix, de plaisir corporel et mental, un temps indispensable d'équilibre et de retour à soi par la pratique. C'est essentiel et tellement merveilleux. Je ne m'en priverai pour rien au monde. Moi, à qui confiez-vous la gestion de vos productions? Je travaille principalement seul, avec les systèmes de gestion intégrés. Je n'ai pas d'agent, pas de salarié fixe. Je dirige des équipes qui vont d'une cinquantaine de personnes à moi toute seule. Je n'ai pas d'employés, seulement des partenaires, eux-mêmes entrepreneurs. On travaille et on partage les bénéfices quand il y en a. Libre à chacun de donner de son temps et de son énergie pour valoriser le projet commun. Recevez-vous des aides? Oui, mais jamais au-delà d'un certain pourcentage. J'y veille. Je tiens à rester autonome, en autofinancement. Je dois être à l'équilibre, même sans elles. C'est une règle que je me suis fixée. J'ai reçu quelques aides des États continents. J'ai aussi quelques mécènes et des bourses de recherche. Mais l'essentiel pour moi, c'est diffuser ces œuvres. Moi, Cela vous prend-il beaucoup de temps ? Surtout pas, Agathe. Vous savez, notre génération a bien changé à ce sujet. Demander des aides était jusqu'aux années 2030, toute une industrie. C'était tout un système dont le fonctionnement global dépassait le montant des aides distribuées. Moi, mais vous avez une vie radicalement différente de celle des artistes du cirque qui vous ont précédé. Agathe, il fallait migrer dans une autre époque, un autre espace, une autre économie, une autre technologie. Inventer d'autres modalités pour notre art, d'abord en considérant que nous sommes les experts de nos métiers, parce que nous sommes celles et ceux qui ont les compétences, l'expérience, et surtout un avenir dont nous devons être maîtres nous-mêmes. Pas de délégation. Inventer, créer, assumer et rendre nos réalisations pérennes par nous-mêmes. Les anciens partaient sur les routes avec toute leur vie dans une valise ou un camion et se débrouillaient tout seuls. C'était ça la cirque attitude. Nous, nous l'avons réactivée. Et le net et l'innovation technologique et commerciale nous a permis de le faire à nouveau, mais autrement. C'était ça ou disparaître. Alors ici, Agathe expose avec l'effondrement d'un système comment le système politico-économique de ses parents et grands-parents s'est effondré dans les années 20-30. Comment l'institution culturelle, les aides publiques, l'intermittence ont progressivement disparu, atteignant brutalement ceux parmi les artistes qui ne l'avaient pas anticipé. Moi, subventions et système social en déroute, les artistes ont donc été mis à mal en France au début du XXIe siècle. Agathe, et comment ? Et ça a fini par exploser. Manifestations, révoltes, le Festival d'Avignon annulé, la grève des demandes de subventions en 2018 a fait tout s'effondrer. Les intermédiaires de la diffusion y passaient aussi, ce qui n'était ni illogique ni anormal au fond, et ni amoral. Tout le monde coulait ensemble. Et là, les politiques ont pris peur, mis l'art sous la tutelle du ministère de l'Éducation nationale français, puis européen, et ça a été la fin d'un système qu'ont précipité les événements. Alors quand j'écrivais ça, j'anticipais qu'en 2030, le fascisme serait en Europe. Je ne sais pas comment j'aurais agi si j'avais connu cette période, mais j'ai toujours été surprise que les artistes d'alors n'aient pas réagi plus tôt. Peut-être y avait-il une sorte d'engourdissement de la pensée parce qu'ils ne croyaient pas, ils croyaient le système immuable, mais qu'ils n'étaient pas venus à Circus Next. C'est étrange quand on est artiste de cirque, as du déséquilibre et prince de l'impermanence, de penser que tout va pouvoir rester stable. Indéfiniment. Malheureusement, il a fallu que la crise soit à son comble pour que les idées des innovateurs de l'époque puissent enfin être entendues. Mon grand-père disait toujours « cirque, risque, crise sont des anagrammes ». Et c'est vrai que la mise en crise volontaire génère la création. Les artistes de cirque le savent. Une formation repensée. Moi, le paysage économique du cirque a donc évolué dans la douleur, mais qu'en a-t-il été pour les formations ? Pour apprendre un métier, il faut nécessairement se former. Agathe, je pense que les artistes doivent être rares et libres, qu'ils ne doivent compter que sur leur propre force pour travailler et créer. J'ai eu la chance de pouvoir me former selon un parcours très sécurisé et véritablement riche, autant en apprentissage qu'en savoir-faire, connaissances et possibilités d'expérience professionnalisante. Mais il est très différent des cursus des formations précédentes. Moi, jusqu'au XXe siècle, on apprenait auprès d'un maître, en famille, n'est-ce pas ? Puis vinrent les écoles, d'abord en URSS, en France. Ces modèles n'étaient-ils pas satisfaisants ? Agathe, il était urgent que la chose publique sécurise les parcours professionnels des jeunes en en formant le moins possible, mais le mieux possible, en les accompagnant parfaitement, de façon à augmenter leurs chances d'avoir un travail ensuite et d'être créatifs dans leur manière d'exister économiquement dans un monde rénové. Au Moyen-Âge, un trouvère ou un troubadour, c'est celui qui invente, qui trouve. Un auteur, c'est ça, c'est celui qui invente l'avenir. Une société qui ne protège pas ses créateurs est morte, sans avenir. Comment pouvait-on former des jeunes à faire ce qu'on leur demandait alors que notre métier, c'est d'inventer et d'assumer ensuite librement et d'être responsable de sa propre vie qu'on a lancée sur le tapis. Former un artiste à la dépendance alors qu'il va devoir toute sa carrière être indépendant, c'était cynique, non ? Ou complètement idiot. L'élève ne peut pas être seulement une variable d'ajustement d'un système économique. Les artistes ont mis du temps avant de comprendre qu'ils ne sont pas seulement des interprètes, ouvriers spécialisés de la production, à la merci du bon vouloir des institutions ou des patrons de cirque en attente d'emploi ou de chômage, mais des créateurs, entrepreneurs, aussi libres et audacieux que leurs œuvres. Et elle termine, alors je vous donne que des extraits là, puisque ça fait 30 pages, par une révolution salutaire. Moi, en fait, vous restituez votre art du cirque dans l'histoire avec un grand H et toutes ses composantes sociales, économiques, culturelles. Agathe, oui. Comment pourrions-nous penser nous isoler de la vie du monde, de la société ? Le cirque est une culture dont témoignent le bâti, les arts du corps, les images, le langage. Il s'inscrit dans l'histoire de l'humanité et ses composantes sont présentes et évoluent à chaque étape de notre évolution. Penser et agir en remettant en question la forme, le sujet, les matériaux, n'est pas l'apanage des penseurs labellisés par les institutions ou des avant-gardes, mais il doit être le but de tout artiste. Le changement culturel peut succéder au changement économique, mais peut aussi précéder et l'induire, ce changement économique, a écrit l'archéologue Jacques Couvin. Face aux tensions issues des événements de 2030, de l'explosion démographique, des bouleversements climatiques et écologiques, l'initiative des artistes n'a pas été le résultat d'une pression du milieu, mais bien une création humaine. Tout est énergie, et l'énergie se fraye un chemin dans et par la matière et lui donne forme. Et l'artiste de cirque, qui lance un objet ou son propre corps, ne fait pas autre chose avec sa trajectoire que de tâcher de s'inscrire dans le flux de la petite part de l'énergie dont il est dépositaire en ce monde. Et il en va de même pour sa vie, son entreprise et son œuvre. Il doit trouver le juste flux. Et c'est ce que nous avons voulu changer pour vivre notre cirque au XXIe siècle, moi. Mais qu'est-ce qui vous a motivé, qu'est-ce qui vous a incité, vous les artistes, les auteurs, à ça, Agathe ? Repenser le cirque pour repenser le monde. Apporter une alternative à la peur et à l'avidité, par la sérénité dans le risque et la beauté d'un geste désintéressé et juste. Pour quitter le malheur, être d'aplomb avec soi-même et replacer la beauté au cœur du monde. Merci pour votre attention à Agathe Frameri. Donc si l'interview d'Agathe vous intéresse, vous allez sur philippeboudard.net dans la colonne News, Circus Next et j'ai mis l'article en ligne.